vous invite donc à vous tourner avec moi à Luc, chapitre 7. On a vu donc Luc nous présenter Jésus comme le grand enseignant. On a étudié le sermon sur la montagne ou près de la montagne, à côté. On pense que c'est peut-être pas la même occasion que le sermon de Matthieu 5 à 7. Et cette présentation, maintenant, elle nous se tourne vers celui qui est un Dieu tout-puissant et qui fait des miracles. On a vu la semaine dernière comment il avait été émerveillé par la foi d'un païen qui lui faisait confiance pour guérir à distance son serviteur, un centenier, un soldat romain, un centurion qui avait une centaine d'hommes sous ses ordres, qui savait ce que c'était que d'être obéi, il savait ce que c'était que l'autorité, et il était convaincu que la maladie, les circonstances obéissaient à Dieu, à Jésus, qui lui-même était soumis à Dieu. Le centurion était soumis à ses supérieurs et il connaissait ce que c'était qu'une chaîne d'autorité. Et Jésus, il est dit, était émerveillé. Et je n'ai pas eu trop le temps la semaine dernière, juste un mot. On devrait prêter une grande attention aux choses qui émerveillent le Seigneur. Est-ce que votre vie émerveille le Seigneur ? Alors on sait que Dieu sait toutes choses, je ne crois pas qu'il soit surpris, mais ce mot d'être émerveillé, d'être admiratif, d'être complètement étonné, on le retrouve à un seul autre endroit, et c'est dans Marc 6, pardon, la voix qui part en l'air là, Marc 6, où il dit que il ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth. Et il leur dit, parlant à sa famille, il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Peut-être que vous êtes rejeté dans votre famille à cause de votre foi, si vous êtes en bonne compagnie. Et là, il est dit, il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Guérir la maladie, c'est très facile pour le Seigneur. Tous les miracles, c'est très facile pour lui. Mais, verset 6, « Et il s'étonna de leur incrédulité. » Dans Hébreu, il est dit, Hébreu 6, que « On ne peut plaire à Dieu que par la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. » Et là, on le voit qu'il s'étonne à la fois du manque de foi, l'incrédulité, et qu'il s'étonne, il s'émerveille de la présence de la foi chez un païen. Alors on pourrait se dire finalement, si Dieu s'étonne qu'il n'y ait pas de foi ou une foi forte, peut-être qu'il se contente d'une foi comme ci, comme ça. C'est l'idée qui m'est venue en voyant que ce mot n'est utilisé que dans ces circonstances. Soit c'est la foi qui le surprend, soit c'est l'absence de foi. Et c'est vrai que Dieu sait que nous ne sommes que des hommes, que nous pouvons avoir la foi, mais que nous avons souvent des doutes. On verra ça dans le passage suivant, la prochaine fois, dans 3 semaines, probablement, Dieu voulant. Et il comprend qu'on ait des doutes, mais si on lui fait entièrement confiance, il s'émerveille. Il dit « Ah ! Est-ce que votre foi, elle émerveille Dieu ? Ou est-ce qu'elle est comme ci, comme ça, coup ci, coup ça ? Est-ce que c'est une foi faible ou c'est une foi forte ? Alors, ce n'est pas en faisant des efforts, en disant, dans une espèce de méthode quoi, je vais avoir la foi, j'ai la foi, je vais l'avoir la foi, je vais avoir la foi. Quand j'étais gosse avec ma petite sœur, quand on voulait faire on avait un projet de sortir avec mes parents dans la nature le lendemain. On avait vraiment une mauvaise conception de Dieu. On pensait que Dieu allait faire le contraire de ce qu'on lui demandait. Donc, on avait mal été enseigné apparemment, et on répétait comme une mantra, comme un leitmotiv, on répétait avant de nous endormir, « Il va pas faire beau, 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 il va pas faire... » Dieu merci, il a corrigé ma vision de lui, on peut lui demander ce qu'on désire, parce que c'est lui qui nous met les désirs dans nos cœurs, mais il n'y a pas besoin de se forcer à avoir la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, la parole et la parole de Christ. La foi, elle vient lorsque vous lisez tous les jours la parole, lorsque vous l'entendez le dimanche et dans toutes les autres occasions, explicitée en vérité et selon l'Esprit. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'avais pensé faire les deux passages en même temps. On a vu donc la guérison du serviteur du centenier, et aujourd'hui on va voir la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Lisons ensemble les versets 11 à 17, si vous voulez bien avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main et on vous en donnera une. Soyez sûr de suivre. Ça va ? Or, ils se rendirent le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Amen. Ces deux épisodes, l'épisode du centenier et celui de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, en fait, ils sont liés parce qu'il y a une rencontre de deux cortèges. Il y a tous ceux qui étaient dans la joie parce que le centenier avait vu son serviteur guéri. Et du coup, il y avait une foule qui suivait Jésus. Il se rendit le jour suivant, ou dans la suite, un jour après ces événements, dans une ville appelée Naïn. Si ce n'était pas pour cet épisode, Naïn serait resté un lieu dit dans l'obscurité pour toujours. Naïn, c'est toujours intéressant de voir un peu l'étymologie hébraïque des noms. Et ça, on n'est pas sûr, mais ça se probablement vient d'un mot qui veut dire qui convient bien ou qui est juste ou qui est beau, qui est belle. Et on peut dire que cette ville appelée Naïn, elle était belle. Elle était belle parce que on voit que, comme il est dit à la fin, Dieu a visité cette ville. Il a visité les hommes qui se trouvaient dans cette ville. Et il n'y a rien de plus beau dans votre vie que d'être visité par Dieu. Si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur, la plus belle chose qui puisse vous arriver, ce n'est pas de gagner le loto, c'est de ne pas voir l'équipe de France gagner 5-0 contre le Brésil en finale. La plus belle chose, et je plaisante à peine parce que je me souviens d'un grand commentateur qui, lorsque la France avait gagné, qui avait déclaré dans un élan « Maintenant on peut mourir tranquille ». Et puis c'était quand même repris, il avait réalisé qu'il allait un peu loin. La plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est pas de devenir riche en gagnant le loto, c'est pas de voir vos favoris, c'est pas de voir vos enfants accéder aux plus hautes responsabilités. Votre plus grande joie dans la vie, c'est d'être visité par Dieu, c'est de le rencontrer. Il est là, il frappe à la porte de tous les cœurs, de toutes les âmes. Encore faut-il faire silence, écouter cette petite voix et lui ouvrir la porte de votre cœur. Et donc, il était dans cette petite ville de Naïn. Il y avait à peu près, ça représentait à peu près 20-30 kilomètres. Donc en fait, ils avaient marché toute la journée depuis Capernaum. Et on peut se demander, qu'est-ce qui avait poussé Jésus à se rendre là ? Lorsqu'on voit la suite, on peut penser que l'Esprit Saint l'avait dirigé. Je crois souvent qu'il est important de réaliser que lorsqu'il s'est dépouillé de sa nature divine ou de ses prérogatives divines, comme il est dit dans Philippiens 2, Jésus a accepté d'être comme un homme. Il est resté Dieu, bien sûr, mais il a renoncé à ses prérogatives divines. Et ma conviction, c'est que il a eu recours, où il a été en communion avec l'Esprit Saint, comme il invite chaque homme et chaque femme à l'être aujourd'hui. Nous aussi, Jésus peut nous diriger, peut nous emmener dans un bled perdu. N'est-ce pas, Guylaine ? Qui eût dit qu'un jour tu irais dans ce petit village servir ton Seigneur ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui doit nous remplir, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, par ce second baptême de l'Esprit, qui nous donne cette puissance d'être de puissants témoins pour convaincre les hommes et les femmes de venir à lui dans la repentance. Il était suivi par ses disciples, non seulement les apôtres, mais tous ceux qui l'entendaient, qui avaient soif d'écouter ce rabbin parler. Les disciples, c'est les mathétès, ceux qui apprennent comme des mathématiciens par excellence. La matière qu'on apprend, c'est les maths. Là, c'était des disciples qui suivaient et qui apprennent de Dieu. Et puis, il y avait une foule nombreuse. Il y a toujours la foule là où il y a des miracles. Il y a toujours la foule là où on sert de la pizza gratuitement, ou du pain et des poissons pour 5000 personnes et toutes les familles de ces 5000 hommes. Mais peu importe, Jésus, il veut parler au cœur de chacun. Et cette petite ville, il y avait une porte. Alors, il n'y avait pas une muraille tout autour de ce petit village. Parce qu'enfin, il n'y avait pas grand-chose à protéger. C'était un petit village. Et il y avait quand même une porte sur la route qui menait à cette petite communauté. Et la porte de la ville, on sait que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'était là que se concentrait la vie publique d'une communauté. C'était un peu, aujourd'hui, la place du village. Aujourd'hui, vous promenez en Provence. Je vous recommande, ça doit être la bonne période d'aller voir les lavandes dans le Var et dans les Basses-Alpes, ou les Alpes de Haute-Provence, pardonnez-moi. Vous trouvez sur des petits bleds, vous ne savez même pas que ça existe, et vous rentrez, vous vous retrouvez, il y a toujours une petite place avec une fontaine, un café, et c'est là que ça se passe. De la même façon, la porte de la ville, c'est là que la vie sociale, la vie du village se passait. Jésus, avec cette procession ou cette colonne de personnes qui arrivait, se trouve arrivé là. Et puis, comme un fait exprès, comme une coïncidence, il y a une autre colonne qui part, parce que l'on portait en terre un mort. Il faut savoir que dans les préceptes de la loi, on ne devait pas toucher les morts. Tout ce qui était mort, il y avait des processus, des prescriptions très détaillées, très longues pour se purifier si on avait touché un mort. Et le cimetière, il était en dehors de la ville pour éviter les contacts. Pour éviter les contacts, pour éviter que les gens touchent par accident des tombes, on les peignait non pas en noir fluorescent, ça n'existe pas le noir fluorescent, je précise. J'y pensais, je disais c'est une belle couleur fluorescente, en fait c'est parce qu'il y a, du jaune fluorescent, du vert ou du bleu, mais on les peignait, on n'avait pas les couleurs fluorescentes alors, on les peignait en blanc. C'est pour ça que Jésus, quand il s'en prenait aux religieux de son temps, il leur disait que c'était comme des tombes badigeonnées en blanc. À l'intérieur, c'était pourri. Il y avait de la corruption, il y avait un processus de décomposition de cadavres, pratiquement comme un processus de putréfaction qui se passait à l'intérieur de ces gens qui, à l'extérieur, pouvaient apparaître très respectables, très religieux, qui avaient les bons habits, qui avaient les bonnes façons, les bonnes manières. Mais à l'intérieur, ils étaient très loin de Dieu. Ils pensaient à leur propre intérêt, à leurs privilèges, et non pas à Dieu, et ils n'exerçaient pas de miséricorde et d'amour envers les gens, le peuple qui les entourait. Et il y a donc ces deux colonnes, ils partent enterrer ce jeune homme, qui était le fils unique de sa mère qui était veuve. Et là, on peut lire ça rapidement ou on peut essayer de penser un peu à ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut imaginer la souffrance de cette femme. Tout d'abord, elle a perdu son compagnon, son mari. L'histoire ne nous dit pas dans quelles circonstances. Peut-être est-il mort d'une maladie, d'un accident. Mais toujours est-il qu'elle se retrouve veuve. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de pension de réversion. Elle n'a plus de revenus de la part de son mari. Mais elle avait un fils. Et son fils, il était, sans doute avec l'âge, il était celui sur lequel elle comptait pour ses vieux jours. Parce que justement, il n'y avait pas de système de protection sociale, entre guillemets. Les gens ne faisaient pas la grève quand on menaçait de changer un peu les modalités. On souffrait en silence. Et là, ce fils qui était à la fois sa protection, son soutien et son futur, peut-être qu'un jour, elle aurait des petits-enfants. Il paraît que c'est une chose merveilleuse, et Dieu merci, nous allons, Dieu voulant, connaître cette joie par l'intermédiaire de Tonio et Lindsay. Et je peux enfin en parler, ça me démangeait depuis tellement de semaines. Il fallait que je me morde la langue pour ne pas faire d'allusion. Mais cette femme, elle n'a plus de protection, elle n'a plus de soutien, elle n'a plus de futur. La famille, c'est fini. Son fils est mort. Et c'était, à l'époque, c'était la plus grande tragédie qui pouvait toucher une personne. De perdre son fils unique. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir que Dieu est passé par là lui-même? Il a perdu son fils unique. Alors il n'avait pas les privilèges attachés, la protection, le soutien financier, le soutien moral et le futur. Mais il a quand même, Dieu se suffit à lui-même, et Dieu, dans son grand amour pour vous et pour moi, il a Il est passé par la plus grande tragédie possible. Je vais vous montrer par quelques références Jérémie 6, 26. Si je ne me suis pas trompé. C'est l'Éternel qui parle à Israël et qui lui dit « Fille de mon peuple, mets un sac comme ceinture et roule-toi dans la cendre, signe de deuil intense, prends le deuil comme pour un fils unique. Répands-toi en lamentations amères, comme un fils unique. » Amos, le prophète, un des petits prophètes, peut-être là où les pages blanches de votre Bible, si vous ne l'avez pas encore lu, Amos 8, 10, l'Éternel qui parle à Amos, un des éleveurs de Tekoa, et lui dit, Amos 8, 10, « Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et son avenir ne sera plus qu'un jour d'amertume. » Et puis un dernier prophète, Zacharie, ce qu'on appelle les petits prophètes, pas par leur importance mais par le volume de leurs écrits, Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil, comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et donc on voit que cette femme, elle était vraiment dans la souffrance ultime. Le nom de sa famille allait être effacé, elle était dans une situation terrible, au point qu'en fait, cette situation suscitait de la compassion de la part des habitants du village. Il y avait une foule considérable de la vie avec elle. Ça, c'est encourageant, quelque part. Et je vous invite, chaque fois que dans votre entourage, il y a un deuil, la chose la plus terrible, c'est pour la personne qui vit ce deuil, c'est de voir les gens qui l'évitent parce qu'ils sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire. Alors c'est bien de ne pas dire de bêtises, c'est bien de prier pour dire des paroles à bon escient, mais sachez, pour être passé par là, que la chose la plus réconfortante, c'est de voir que le deuil que vous vivez, qui vous affecte si profondément, il a un impact sur les gens qui vous entourent. Et vous n'avez besoin de rien dire, seulement d'être là, présent. Présent autour de la personne, pleurez avec elle, apportez-lui des repas, offrez de l'aide pratique, offrez d'aller faire des démarches avec elle ou pour elle, de la transporter en voiture si elle n'a pas de véhicule, etc. Le soutien dans le deuil, c'est quelque chose de très facile. Et souvent, les gens, peut-être par égoïsme, « Oh, je n'ose pas trop lui parler, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur de dire une chose qui va la faire pleurer encore plus. » On a besoin de pleurer quand on est dans le deuil. Ça fait partie de la thérapie divine. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Il savait peut-être qu'il allait le ressusciter, mais il avait de la peine de voir la peine autour de lui. Il s'est mis à pleurer. N'ayez pas honte de pleurer, vous les gars. Le gardien de but du Brésil a même pleuré avant les tirs au but hier soir. Sans doute parce qu'il sentait la pression et ça, je crois que c'est aussi, il fait partie de ces joueurs qui sont chrétiens et qui n'ont pas honte de montrer leurs sentiments. On ne va pas aller sur le terrain de la Coupe du Monde, on se détournerait de notre message. Il y avait de la compassion chez les gens. Sans doute, il lui disait « Oh, ne pleure pas, ça va aller, tu vas t'en remettre. » Et souvent, les hommes, on est prêt à dire « Arrête de pleurer, ça va aller, ne souffre pas, avec le temps, ça va passer. » Au moins, toi, tu es vivant. Tu aurais pu être blessé dans l'accident de voiture qui a pris la vie de ton fils. C'est bien beau tout ça, mais lorsqu'on dit à quelqu'un de ne pas pleurer, en tant qu'homme, on n'a aucune capacité, aucun pouvoir à transformer les raisons qui font que la personne pleure. C'est pour ça que c'est souvent un peu vain de dire « ne pleure pas ». Je crois qu'il vaut mieux pleurer avec la personne. Ce qui est bien, c'est que Dieu a prévu qu'une fois qu'on a pleuré un bon coup, rien que pour respirer, on va s'arrêter un peu. Mais ça fait du bien. Mais Jésus, lui, il voit la situation et il a compassion d'elle. Compassion, c'est le latin pour le mot grec sympathie. C'est souffrir avec, avoir mal avec. La compassion, c'est ta douleur vient en moi et elle me fait mal. C'est pour ça que dans le deuil, il est bon de prendre la douleur de l'autre et de pleurer avec l'autre l'absence de la personne aimée, son départ. On sait qu'en tant que chrétien, si la personne est chrétien, on ne doit pas avoir du chagrin comme les hommes du monde, comme les païens qui ne savent pas qu'il y a une espérance fantastique, que la vraie vie va commencer pour la personne qui est partie. Mais ce mot de compassion, c'est en grec, c'est un mot très fort. C'est un mot qui est basé sur le mot qui désigne les intestins. Les tripes, ça vous prend aux tripes. Vous avez mal à l'estomac rien que d'être dans cette situation de douleur, de peine pour l'autre. La peine de l'autre vous a fait tellement mal qu'elle agit sur votre système digestif, vos organes digestifs. Ça fait mal aux tripes. Et Jésus, plus encore que ces personnes qui connaissaient l'enfant, qui connaissaient la maman, il sait ce par quoi elle passe. Elle a perdu son fils unique. Peut-être se rappelle-t-il du sacrifice d'Abraham avec Isaac. Peut-être pense-t-il prophétiquement au fait que son père va donner son fils unique en sacrifice. Mais il est pris aux tripes. Il a de la compassion. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ne pleure pas. Et ça, encore une fois, c'est soit un vœu pieux, soit c'est la parole de quelqu'un qui peut changer les circonstances qui font que la personne pleure. Et donc pour les gens, c'est soit un sacrilège de prétendre qu'on a la capacité de changer les choses, soit c'est une déclaration de divinité. Ne pleure pas. Et lui, il ajoute l'action au bon sentiment. Ce n'est pas le tout de dire « ne pleure pas », il va venir vers la personne, il vient vers le cercueil, il s'approche et il touche le cercueil. Alors quand on pense à cercueil, on pense au cercueil d'aujourd'hui, fermé de tous les côtés, avec une planche sur le dessus, une boîte allongée, plus ou moins chère, suivant les pompes funèbres. Il y a un commerce honteux, souvent, mais en fait, c'était probablement plus comme une civière, hein, parce que la personne était recouverte, enveloppée dans un linceul, et on ne tardait pas, parce qu'il n'y avait pas de chambre froide. Dans la journée, généralement, dans les 24 heures, la personne était enterrée. Souvent, la personne était mise sur un rebord dans une grotte, comme celle de Jésus, qu'on peut aller voir à Jérusalem. Et on attendait un certain temps que le corps se décompose, et après plusieurs mois, avec la chaleur, on venait rechercher les os, on les mettait dans une boîte à ossements. On en a retrouvé une il n'y a pas longtemps qui a causé une controverse. Est-ce que c'était celle de Jésus, qui voudrait dire qu'il y avait des os, mais elle était vide. Et la place était de nouveau prête pour quelqu'un d'autre. Il vient, lui, qui était un rabbin, qui n'avait pas le droit de toucher les morts, il va toucher le mort, il va toucher le cercueil. Mais encore une fois, il surprend tout le monde, parce que quand il touche le mort n'est plus mort. Le mort est vivant. On raconte que l'évangéliste et pasteur du 19e siècle aux États-Unis, Dale Moody, s'était dit: je dois faire un enterrement, c'est mon premier enterrement. Oh, j'ai une bonne idée, je vais aller voir comment Jésus prêchait les sermons quand il assistait à un enterrement. Il a commencé à chercher, puis il a réalisé qu'en fait, il n'y en avait pas, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par lui. La mort ne peut pas rester en sa présence. Et ces deux cortèges qui se rencontrent, c'est le cortège de la vie contre celui de la mort. Et devinez qui gagne? C'est Jésus, le vivant, le Dieu vivant, ressuscité aujourd'hui, qui est à la droite du Père. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il avait cette autorité naturelle, cette puissance qui émanait de lui, qui faisait que lorsqu'il parlait, on l'écoutait. Vous vous souvenez que le centurion lui disait: « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » La parole de Christ, c'est la parole de Dieu qui a mis les cieux en orbite, les galaxies en orbite. Sa parole, elle est toute puissante. Sa parole, c'est la parole vivante qui est Jésus, et c'est aussi la parole qu'il nous a confiée par le Saint-Esprit dans sa parole, dans la Bible. Ce livre, c'est pas un livre de bonnes idées, c'est pas un livre de philosophie intéressante, c'est le livre de la vie. C'est le livre qui va vous donner la vie. C'est en lisant, en découvrant ce livre, avec l'aide du Saint-Esprit, et d'autres amis chrétiens qui vont vous partager des choses qu'ils connaissent, c'est là que vous témoignez auprès de vos amis. Ce livre, il va vous amener à fléchir le genou devant le Tout-Puissant, devant Jésus de Nazareth, le Seigneur, votre Maître, votre Sauveur, si vous venez à lui dans l'humilité et la repentance. Il parle, je te le dis, lève-toi. Et j'aimerais bien faire une petite remarque, c'est que Dieu parle aux morts, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas complètement morts. L'enveloppe charnelle est partie, et plutôt décédée, elle ne fonctionne plus, elle est cassée, capoute. elle commence à se décomposer, mais la personne n'a pas pour autant cessé d'exister. Et là aussi, si vous avez eu l'occasion d'assister à des funérailles et de voir la personne morte, quelquefois dans notre culture, on laisse le visage ou le corps de la personne visible. Certains disent « Oh là là, non, je peux pas, c'est terrible !» En fait, forcez-vous un peu, parce que quand vous faites cette expérience, vous réalisez qu'il y a la personne, mais en même temps qu'il y a quelque chose qui est parti. La personne ne bouge plus, ne répond plus, vous lui faites furtivement un bisou sur le front, vous êtes choqué parce que c'est glacial. En général, c'est parce que la personne a passé déjà quelques journées ou heures dans la chambre froide pour ralentir le processus de décomposition. Mais c'est très instructif. J'ai eu la tristesse de perdre mon père quand j'avais 19 ans et ça a été un choc pour moi de réaliser qu'il était là, mais qu'il était parti en même temps, qu'il y avait quelque chose en plus. Et cette chose en plus, c'est votre vrai vous, c'est votre être spirituel. Et votre être spirituel, soit votre corps va être ressuscité, c'est la promesse de la Bible, soit pour le jugement et pour l'enfer, soit pour la résurrection et la vie de félicité avec Dieu pour toujours. Et le choix, il vous appartient aujourd'hui. C'est à vous de faire le bon choix. Madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. Il parle. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle est décédée, elle a encore une unité. C'est pour ça que la personne, quand elle va être relevée des morts, ressuscitée, vous la reconnaîtrez, vous la verrez. Et on ne cesse pas d'exister, on ne va pas entrer dans une espèce de choses abstraites, un monde de résonance, de vibration, un grand « ou être ressuscité, plutôt réincarné sous la forme d'un petit chat, d'un grand cheval, d'une fourmi, ça c'est des fadaises, ce sont des foutaises. Soyez ferme avec vos amis qui vous disent « Non, je ne crois pas en Jésus, mais je crois en la fourmi. Je vais être réincarné en une petite fourmi mignonne. » Et pourtant, c'est l'enseignement de ces fausses religions qui sont... Ça me dépasse parce qu'il y a un aveuglement. On le sait, le Dieu de ce monde a aveuglé les consciences des gens qui ne se tournent pas encore vers Jésus. Mais si on se tourne vers Jésus-Christ, le voile est enlevé et on comprend. Même si vous ne comprenez pas, entre guillemets, donnez une chance à Jésus. Donnez une chance à Jésus-Christ. C'est quelque chose que vous pouvez dire à vos amis qui ne croient pas en lui, mais qui sont prêts à croire dans les choses les plus stupides, dans les choses les plus folles, les moins sensés, à vos amis qui ne sont pas religieux, mais qui lisent leur horoscope tous les jours pour savoir si, parce qu'ils sont nés quand Jupiter était dans telle position du ciel, ils vont rencontrer aujourd'hui l'âme sœur, ou c'est aujourd'hui qu'ils vont avoir leur augmentation, parce que c'était dit ce matin dans l'horoscope. Oh, toi, arrête avec tes folies de foi en Dieu, c'est n'importe quoi, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Sois de ton temps, arrête, ne sois pas obscurantiste, laisse-moi lire mon horoscope. Il parle et cette personne l'entend. Il parle comme si la personne l'entend parce que la personne l'entend. Il parle comme si la personne peut se redresser, se relever, parce qu'elle le peut. Il lui dit, lève-toi, je te le dis. Toute l'autorité de la parole qui a mis en orbite les galaxies, toute l'humanité, toute l'histoire du monde, des univers, c'est cette même parole qui lui dit « Lève-toi ». Et le mort, le résultat, c'est que le mort s'assoit. Il n'y a pas besoin de faire une longue thérapie sur la parole pour que la personne retrouve l'usage de sa parole. Aussitôt, il se met à parler et Jésus, plein de compassion, le rend à sa mère. Et tous furent saisis de crainte parce qu'ils réalisaient qu'ils étaient en la présence d'un Dieu pur, d'un Dieu sans péché et que nous sommes tous des pécheurs. Ça jette la peur de réaliser qu'on est en présence du Dieu vivant. Mais il disait simplement, un grand prophète s'est levé parmi nous. Sans doute référence au miracle dont ils avaient entendu parler avec Élie et Élisée. Et il disait bien que Dieu a visité son peuple, mais il ne l'avait pas reconnu. Il disait seulement que c'était qu'un prophète. C'est ce que disent les religions. Jésus est un prophète parmi d'autres, qu'il n'est pas le plus grand des prophètes. C'est faux. Il est non seulement un prophète, mais il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui a visité son peuple. C'est dans Jean 1944, pour vous en rappeler, la Grande Guerre, si je ne me trompe pas, 1944, 1944. Non, c'est pas bon. Alors, c'est là où il dit que vous n'avez pas reconnu le jour de la visitation de Dieu, lorsque Jérusalem va périr. Il n'avait pas réalisé qu'il était là. Et ça, c'est la chose la plus terrible, c'est de passer à côté de Jésus. C'est Luc 19:44, j'ai retrouvé une note. On va lire rapidement. 19, c'est dans le même évangile. « Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » « Qui dites-vous que je suis ?» dira Jésus à ses disciples. Il n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement un grand homme, il est le Fils du Dieu vivant, plein de compassion. Et j'aimerais, pour terminer, vous faire remarquer que souvent on pense que les miracles, c'est toujours pour prouver la réalité de Dieu. C'est vrai que ça a cet effet, mais on sait que c'est souvent pas parce que les gens voient des miracles qu'ils se convertissent. On le voit dans la Bible, on le voit dans la vie réelle aujourd'hui. Si on a la chance de voir des choses fantastiques, des miracles, c'est pas pour autant que les gens trouvent toujours des excuses à leur incrédulité. Oh, ça s'est bien tombé. En fait, c'était les gens, c'était pas les pains qui ont été multipliés, c'est que les gens ont osé sortir le sandwich qu'ils avaient acheté à Leader Price tous ensemble. 5 000 personnes ont mangé. Non, Jésus fait des miracles parce que il aime, il souffre avec vous, il a de la compassion. Et souvent, c'est comme s'il ne peut pas s'empêcher lorsqu'il voit la souffrance. Dieu merci que Dieu est un Dieu plein de compassion et d'amour. Il pourrait être Dieu et se trouver être un Dieu sanguinaire qui prend plaisir à faire du mal. Non, personne ne lui avait rien demandé. Il n'avait pas envoyé quelqu'un demander à Jésus de venir ressusciter son fils. Elle n'avait pas fait ça. Elle n'avait pas de foi. Souvent, les fausses religions chrétiennes qui disent, qu'on appelle les religions de la foi, disent que c'est notre foi qui n'est pas assez forte. Jésus n'a pas besoin de votre foi pour agir. Votre foi, elle vient en ce que vous écoutez la parole et la parole de Christ. Elle est ce qui va plaire à Christ, à Dieu. Mais Dieu peut agir même si vous êtes un païen, même si vous êtes musulman, bouddhiste, athée. Même si vous êtes un cannibale, on ne parle pas de la Coupe du Monde. La foi est n'est pas nécessaire. Votre foi n'est pas toute puissante. C'est Jésus qui est tout puissant. C'est sa puissance divine activée seulement par son propre désir d'aider les hommes, d'aider les autres. Qui dites-vous que je suis ? La réponse vous appartient. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cet épisode de cette ville qui était belle parce que tu l'as visitée, Seigneur. Et Seigneur, tu vois en nous de belles personnes. Nous savons que nous ne sommes pas des bonnes personnes au naturel, mais tu veux nous transformer en belles personnes si nous reconnaissons le moment de ta visite. Si nous acceptons ton amour, ta grande compassion. Seigneur, sois béni parce que tu veux faire du bien, tu veux aimer tous les hommes, tu veux les sauver, tu veux les amener à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ton évangile. Seigneur, nous te prions pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore fait cette démarche de recevoir cet amour avec confiance, de te remettre leur vie, Seigneur. Si vous n'avez jamais fait cette démarche et que vous êtes touché par cette visite de Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui, je vous demanderai simplement, discrètement, pendant que tout le monde est dans le recueillement, de lever votre main pour qu'on puisse prier pour vous et vous parler, vous encourager dans cette démarche de foi. Sachez aussi que cette démarche, vous pouvez la faire à tout moment, dans le secret de votre cœur. Souvent, c'est bien de se retrouver seul et de méditer ces paroles, de lire votre parole dans un endroit où vous n'êtes pas distrait. Seigneur, sois à l'œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Parce que tu es la vie qui a vaincu la mort, Seigneur. Mort, où est ton aiguillon ? Dira l'apôtre Paul, Seigneur. C'est merveilleux de savoir que le plus grand ennemi de l'homme, tu l'as vaincu. Tu es là pour nous sauver, Seigneur. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.